débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. La reprise se profile en France grâce au retour d'une croissance faible, certes, mais après 3 ans de quasi-stagnation de l'économie française. Alors cette croissance sera-t-elle suffisante pour faire cesser la montée du chômage, voire inverser sa courbe, objectif déclaré du président Hollande? Comment cette reprise impatiemment attendue de l'économie française se concrétise-t-elle? Va-t-elle se poursuivre, s'amplifier? On va en parler ce soir avec deux invités que je vous présente tout de suite. Éric Ayer est directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, qui publie chaque année sous sa houlette un rapport sur l'économie française aux éditions La Découverte. Bonsoir Éric Ayer.
Bonsoir, alors je suis directeur à l'OFCE, pas de l'OFCE.
D'accord, précision importante et notée. Bertrand Martineau, économiste lui aussi spécialiste de la question du chômage, des politiques de l'emploi et également contributeur à l'Institut Montaigne, auteur d'un livre qui s'appelle « Chômage, inverser la courbe », dont une réédition vient de sortir chez Fayard, me dites-vous aux éditions Pluriel, qui sortira la semaine prochaine, c'est ça. Et bonsoir Bertrand Martineau.
Bonsoir.
Alors, d'abord, est-ce que vos observations confirment ce frémissement de la reprise annoncée et peut-être à quoi l'attribuer, une conjoncture favorable, à une politique gouvernementale, Éric Ayer?
Alors, enfin, alors, d'abord, oui, il y a bien un léger mieux, c'est-à-dire que globalement, quand est-ce qu'on peut appeler reprise un léger mieux? C'est généralement lorsque l'emploi repart et lorsque l'investissement repart également. Donc, on n'en est pas encore là. On est plutôt dans ce qu'on appelle un rebond économique. Ce rebond économique, on en connaît un petit peu les raisons. C'est ce que tout le monde appelle l'alignement des planètes. Mais oui, effectivement, il y a aujourd'hui, à la fois des taux d'intérêt qui sont bas, un euro qui est plus faible que l'an dernier, et un prix du pétrole qui a chuté. Tout ça, ça permet d'avoir un léger mieux, parce que ça vous donne du pouvoir d'achat, et lorsque le pouvoir d'achat des ménages s'améliore, la production en France s'améliore également. Lorsque l'euro baisse, ça fait plus de compétitivité. Donc tout cela fait que effectivement il y a un léger mieux qui a été un peu refroidi par le chiffre du deuxième trimestre qui était zéro, mais globalement, quand on regarde les enquêtes de conjoncture, c'est-à-dire lorsque l'INSEE, l'Institut National de Statistique, questionne les chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire au troisième trimestre, on a déjà des mois du troisième trimestre, là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un mieux certain. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise reprennent confiance, le climat des affaires, qu'il soit dans l'industrie, dans les services, et se redresse vraiment de façon considérable. Il y a un secteur par contre qui n'arrive pas à se redresser, c'est la construction, mais sinon on voit vraiment un mieux certain, et donc on devrait connaître des taux de croissance aux alentours de 0,3, 0,4 dans les trimestres prochains. Donc c'est pas énorme, hein. Oui, ça va nous faire une année à 1,2, 1,3, donc c'est pas
un petit frais.
Mais voilà, c'est mieux, et sans doute, on en discutera, mais sans doute, si ça continue en 2016, là, on pourra vraiment parler de reprise économique.
D'accord, alors vous partagez cette analyse, ce diagnostic, Bertrand Martineau?
Oui, à peu près. Alors, il faut déjà commencer par la situation internationale, parce qu'en fait, c'est pas au niveau de la France, clairement, que se joue la conjoncture, hein. Donc c'est au niveau international et dans une moindre mesure au niveau européen. Au niveau international, on avait essentiellement des bonnes nouvelles jusqu'à la fin du premier semestre, hein, surtout comme l'a rappelé Éric Ayer, évidemment au niveau des taux d'intérêt, la baisse du change qui avantage nos exportations, et aussi, et alors ça c'est que du bonheur, une baisse énorme du pétrole et des prix des matières premières, c'est un véritable contre-choc pétrolier, et ça évidemment c'est très bon, aussi bien pour l'offre que pour la demande, c'est très bien. Alors depuis quelques semaines, évidemment, on a un ralentissement très marqué qui inquiète d'ailleurs le FMI de la croissance mondiale, et un repli du commerce international, c'est un véritable problème. Un ralentissement de la Chine qui est très, très, très inquiétant. Et puis, il y sur fond de désordre total monétaire et financier international. C'est-à-dire qu'il y a une création monétaire absolument délirante depuis plusieurs années. Des finances publiques et privées qui sont toujours pas remises au carré dans les principaux pays industrialisés. Et on a donc des déséquilibres fondamentaux. C'est-à-dire que le prix des actifs ne reflète plus vraiment la réalité. Il y a des distorsions partout sur les marchés financiers, que ce soit les actions ou les obligations. Et donc, le fond n'est quand même pas très très bon. Alors maintenant, si on en vient à la zone euro et à la France, bon, la zone euro a des signes contrastés, c'est-à-dire qu'elle est plutôt repartie plus vite que la France, mais elle donne des signes d'essoufflement, notamment la confiance dans l'industrie qui s'est beaucoup dégradée en août en la zone euro et en particulier en Allemagne. Alors la France, on a l'impression que c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'on a eu les plus mauvais dans le passé immédiat, on a eu les plus mauvaises performances au deuxième trimestre, que ce soit en termes de PIB, de chômage, de tous les pays de la zone euro, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, il y a de plutôt bons indicateurs. Donc on se demande si la France serait pas en train d'avoir des anticipations un peu meilleures à retardement que la zone euro, mais au moment où la zone euro, tirée un peu par la mauvaise conjoncture internationale, tendrait à ralentir. Donc au total, on est dans un environnement quand même très très complexe. Et la meilleure prévision qu'on peut faire, c'est certainement ce que dit Eric Heyer, c'est-à-dire qu'une croissance molle, peut-être un faux plat à 0,3, 0,4 par trimestre, mais certainement pas beaucoup plus.
Bon, alors, la création d'emplois, vous l'avez évoqué tout à l'heure comme indicateur de la reprise économique sur la durée, on est loin du compte, manifestement. Les perspectives sont optimistes ou pas ?
Bon, il faut toujours être prudent lorsqu'on fait des projections, hein, on se trompe assez souvent, mais globalement, quelle est l'analyse que l'on peut faire, nous, à l'OFCE ? C'est que, globalement, aujourd'hui, il y a du sureffectif dans les entreprises en France. C'est-à-dire que les entreprises disent clairement à l'INSEE qu'elles pourraient produire beaucoup plus sans embaucher. Alors ça, c'est quand même pas un bon signal de reprise de l'emploi à venir. C'est-à-dire que globalement, ce que ça veut dire, c'est que tant qu'elles n'auront pas absorbé finalement ce sureffectif, c'est-à-dire que elles n'utiliseront pas à plein leur capacité de production et notamment leur main-d'œuvre, elles vont pas recommencer à embaucher. Donc ça veut dire que le peu de croissance que l'on va avoir dans les prochains mois va être utilisé plutôt pour absorber ce sureffectif, plutôt pour créer de l'emploi nettement. Donc il ne devrait pas y avoir de forte création d'emplois à attendre dans les prochains mois pour ces raisons-là. Et puis pour une autre raison, c'est qu'il y a toujours un décalage lorsque vous avez entre la reprise de l'activité et la reprise de l'emploi. Donc nous, dans nos prévisions, bon, qui sont assez fragiles parce que vous voyez, ça dépend des secteurs. C'est-à-dire, ce que je viens de dire, c'est vraiment une réalité pour la construction et pour l'industrie, mais pas du tout pour les services. Donc si l'activité est ciblée sur les services, il peut y avoir des créations d'emplois. Mais par contre, si c'est une activité industrielle due à une compétitivité meilleure de l'industrie, là, il n'y aura pas beaucoup de création d'emplois. Donc, bon, à ce bémol près, nous, ce que l'on voit, c'est que globalement, bon, il y aura quand même des effets positifs dus au CICE et au pacte de responsabilité. Le fait de baisser le coût du travail aura des répercussions. Il y aura aussi du traitement social du chômage. Donc, il y aura des créations d'emplois soit aidée, soit subventionnée, qui va quand même un peu aider à créer des emplois. Mais globalement, il ne faut pas s'attendre à des fortes créations d'emplois. Et donc, l'inversion de la courbe du chômage, puisqu'il faut quand même rappeler qu'il faut à peu près 150 000 créations d'emplois pour stabiliser le chômage, hein, en règle générale, compte tenu de la hausse de la population active. Donc, on atteindra à peu près ces niveaux. Enfin, on aura une baisse du chômage, à notre sens, d'ici la fin, enfin début de l'année prochaine, et assurément.
Alors, j'aimerais savoir quand même, puisque c'est l'actualité, même si elle est d'hier, ce que vous inspire, et à ce propos, la nomination de Myriam El Khomri au ministère du Travail, Bertrand Martineau.
Déjà, sur les créations d'emplois, je rejoins à peu près ce que dit Eric Heyer. Il y a effectivement le sureffectif, c'est-à-dire que les entreprises, dans un premier temps, risquent d'avoir surtout à rétablir un taux de marge qui est quand même très assez dégradé. Donc, spontanément, la croissance ne créera pas beaucoup d'emplois, en tout cas pas assez pour résorber le chômage, enfin résorber, je parle même pas de revenir au plein emploi, je dis juste d'inverser vraiment la courbe, c'est-à-dire d'avoir quelques centaines de milliers de chômeurs de moins. Donc la question va se déporter sur, à croissance donnée qui va probablement être très faible, enfin molle, je sais pas comment on peut dire, la question est de savoir combien on crée d'emplois à croissance donnée. Et c'est là que les politiques de l'emploi et plus généralement l'action conjuguée, à mon avis, du ministre du Travail et du ministère de l'Économie peuvent entrer en jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nomination ? Déjà, je pense qu'il faut faire crédit aux gens nouveaux. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir quelqu'un qui soit pas quelqu'un qui soit un apparatchik depuis 20 ou 30 ans d'un parti politique. Voilà, c'est quelqu'un de nouveau qui on peut penser qu'elle aura des idées nouvelles. Donc voilà, donc
pas mais de est-ce qu'elle peut initier cette réforme du code du travail dont on parle à demi-mot sans jamais oser l'aborder
front. Elle peut initier, vous savez, sous la 5e République, ça se décide quand même beaucoup non pas à Bercy, non pas au ministère du Travail, mais vous savez,
au
niveau de l'Élysée. Bon. Donc ce sont des organisations très lourdes. Je note juste qu'il y a un mouvement d'opinion qui est très favorable à une vraie réforme du Code du Travail. Alors après, qu'est-ce qu'on entend par réforme du Code du Travail ? Parce que tout le monde est pour, mais à mon avis, on n'a pas tous les mêmes idées. Mais c'est vrai qu'il y a un consensus de la part de beaucoup de monde, que ce soit à droite ou à gauche, notamment pour aller vers plus de dialogue social au niveau de l'entreprise et des branches professionnelles. C'est en gros, pour simplifier, il faut en finir avec les normes générales, nationales. Puisque le problème du Code du travail, c'est pas qu'il y a trop de normes en soi, c'est la question de savoir où elles sont posées. Or, la spécificité française, c'est que le Code du travail, c'est pas qu'il est mauvais en soi, si vous voulez, il est plutôt bien rédigé, bien fichu, etc. C'est juste que il prescrit dans les détails les normes, des normes qui, pratiquement dans tous les autres pays, sont, en tout cas les pays qui marchent le mieux en termes de marché du travail, qui sont déterminées au niveau décentralisé. Donc ce sera ça l'enjeu. Je pense qu'il peut y avoir un relatif consensus. Maintenant, il y a des équilibres politiques, etc. Puis enfin, on est à 18 mois d'une élection présidentielle, des grandes réformes structurantes à 18 mois d'une élection présidentielle, il va falloir faire vite.
Alors, cette complexité du droit régulièrement dénoncée, est-ce qu'elle est vraiment, Éric Ayer, un obstacle à la baisse du chômage?
Moi, j'en suis pas certain. Très sincèrement, je pense que si c'est trop complexe, bien entendu, si personne n'y comprend rien, bien entendu, mais aujourd'hui, penser qu'il suffit de flexibiliser le marché du travail, de flexibiliser le code du travail pour qu'on revienne au plein emploi, j'en suis vraiment pas certain. C'est-à-dire que globalement, revenons, juste avant la crise économique, le premier trimestre 2008, le taux de chômage en France était à 7%. C'est-à-dire qu'avec ce code du travail, on était même à 6,8%. Vous voyez.
Donc, pendant un trimestre, enfin.
Oui, mais d'accord, mais oui. on baissait le taux de chômage, on n'avait pas des taux de croissance extraordinaires à ce moment-là, et le chômage perdait un point par an, et donc on arrivait quand même à créer suffisamment d'emplois pour le faire baisser, pour se rapprocher, enfin, descendre. Donc, avec ce code du travail. Donc, je pense que moi, la véritable clé, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a des carnets de commandes importants? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous flexibilisez, mais sans faire de politique macro adaptée, sans faire de réformes de vos biens et services, sans faire de réformes sur de l'immobilier, je pense que bon, ça va peut-être avoir un tout petit incidence, mais c'est pas suffisant. Alors, en revanche, que le code du travail aujourd'hui ne soit pas assez finalement protecteur des travailleurs, parce que finalement plus personne n'y comprend rien. Ça, oui. Donc là, je suis plus dans la ligne finalement de Badinter qui vous dit pas que le code du travail a détruit les emplois, mais que le code du travail arrête de protéger les travailleurs. Et ça, oui, ça, d'accord. Donc, de ce point de vue-là, il faut sans doute dépoussiérer ce code du travail, faire la part des choses sur les vieilleries et les nouveautés, le rendre plus lisible pour que chacun s'y retrouve. Mais je suis pas sûr que ce soit l'axe principal pour revenir au plein emploi. En tout cas, ça suffira pas.
Bertrand Martineau.
Ah oui, ça suffira pas, c'est évident. On a des déséquilibres que j'ai indiqués au niveau mondial et également au niveau européen. Je rappelle que la crise grecque n'est pas qu'une crise grecque, c'est une crise de la zone euro et on n'en est pas sorti. Voilà un problème. Alors maintenant, la grande difficulté, c'est que moi je crois beaucoup, comme Éric Ayer, aux politiques macroéconomiques. Le drame, c'est que on a une politique monétaire qui est déjà pied au plancher, c'est-à-dire qui monétise les dettes. Donc on a fait sauter tous les tabous et on a un changement total de paradigme de la politique monétaire qui vise à stabiliser les marchés financiers quasiment plutôt qu'à jouer un rôle vraiment conjoncturel, avec une efficacité d'ailleurs qui pose question, puisque l'inflation est toujours à peu près nulle, donc on peut se poser la question. Donc on est au taquet, on va dire, en termes de politique monétaire, on est à fond. Quant aux politiques budgétaires, on a les taux d'endettement record historique en temps de paix. On n'a jamais eu autant d'endettement en temps de paix en France et dans la zone euro. Donc on est un peu en difficulté sur les politiques budgétaires. Donc on n'a plus tellement d'outils macroéconomiques à notre disposition. C'est pour ça que c'est pas par idéologie que les gouvernants de droite ou de gauche se déporte plutôt sur les politiques dites structurelles. Donc, on a parlé du marché du travail. Alors, le code du travail est un sujet important, mais bien entendu, je suis d'accord avec Éric Ayer, c'est pas en assouplissant les licenciements comme ça, simplement, qu'on va faire repartir la machine économique. C'est, à mon avis, sur des réformes beaucoup plus structurantes. Oui. C'est pas qu'un sujet de contrat de travail, c'est encore une fois un sujet d'élaboration de la norme de travail. C'est beaucoup plus complexe et ambitieux que de simplement donner un permis de licenciement. Ça, je suis d'accord, c'est pas le sujet. Alors, pour en venir peut-être au sujet Badinter. J'ai lu évidemment le petit livre de Monsieur Badinter, qui est pas du tout un spécialiste de droit du travail d'ailleurs, mais c'est son co-auteur Monsieur Lancan qui en est un. La difficulté de cette approche, c'est que c'est une approche un peu table rase, c'est-à-dire qu'on réécrit tout le code du travail en quelques dizaines d'articles fondamentaux, et puis après on voit. Alors cette option table rase est un peu audacieuse parce que je pense pas qu'on fasse vraiment des réformes comme ça. Et il y a un problème supplémentaire, c'est que ils le disent d'ailleurs dans le début de leur livre, c'est que ils ne parlent pas des négociations collectives. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne parlent que du contrat de travail. Et donc qu'est-ce qui se passe si on fait un code du travail en 50 articles par exemple comme ils le proposent? Bah c'est simple, c'est le juge qui fera la loi. Mmh. Donc on aura un droit totalement jurisprudentiel. Et alors là franchement en termes de sécurité et je doute beaucoup de l'efficacité.
Des réformes structurelles donc qui risqueraient de rendre encore un peu plus confuse ou difficile la situation. On se demande quelle alternative alors donc à cette dérégulation du travail, quelles seraient des solutions possibles, Eric Ayer?
Non, enfin, alors, enfin, moi, je suis pas persuadé qu'on a tout essayé, y compris dans les réformes. Moi, je pense que l'Europe ne fonctionne pas aujourd'hui parce que justement, on fait des politiques non coopératives entre nous. C'est des stratégies individuelles. L'Allemagne a fait sa dévaluation alors qu'on était en monnaie unique, au détriment des autres pays. Là, aujourd'hui, c'est l'Espagne qui fait sa déflation salariale, etc. Je pense qu'il faut beaucoup plus de coordination au sein de la zone euro pour avoir plus de croissance économique dans cette zone euro. Il faut faire des grands plans d'investissement aussi, donc de certains transferts. Donc je pense que c'est par plus d'Europe qu'on peut s'en sortir. Et c'est, me semble-t-il, le principal axe aujourd'hui, surtout que on vit dans un monde où maintenant la demande va être de plus en plus rare, c'est-à-dire que, y compris les pays émergents connaissent des crises économiques, et puis cette idée de stagnation séculaire me séduit quand même quelque peu. Donc il faut justement, il y a un rôle très important de l'Europe et que l'Europe ne joue pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que la zone euro a été la seule zone au monde en récession en 2012-2013, ce qui est assez extraordinaire. La France, entre guillemets, même si on fait des moins bonnes performances, n'était pas tombée en récession à ce moment-là, donc quand même s'en sortait mieux que ses partenaires européens. Mais globalement, je pense que ça passe par l'Europe. Si on devait faire une vraie réforme, c'est la réforme de la construction européenne.
Plus d'Europe. En une minute, parce qu'il nous reste quasiment pas de temps.
Tout à fait d'accord sur la partie macroéconomique, mais je pense que, de manière générale, modifier nos systèmes sociaux, et en particulier notre système de droit du travail, selon les lignes que j'ai indiquées, que préconise le rapport de l'Institut Montaigne sur le dialogue social. C'est-à-dire, encore une fois, faire que les normes soient plus décentralisées et moins décidées au niveau national, ça me paraît quand même être, non pas quelque chose qui mécaniquement reviendra au plein emploi, mais qui peut quand même, dans une dynamique de croissance, enrichir le contenu de la croissance en emploi et aller dans la bonne direction.
En tout cas, la Banque Centrale Européenne a abaissé, on l'a appris il y a quelques heures, ses prévisions de croissance pour la zone euro. Aujourd'hui, l'incertitude donc prévaut toujours sur une reprise ferme de l'économie sur le continent.
Oui, alors, mais vous voyez, ils ont révisé de 0,2 points de croissance. Oui. Très sincèrement, aujourd'hui, faire des prévisions à 0,1, 0,2, vous voyez qu'on fait des révisions de 0,1, 0,2. Effectivement, le fait que la Chine se casse la figure, ben voilà, ça fait à peu près 0,1, 0,2 de croissance. Vous voyez, oui. C'est pas non plus un cataclysme.
La reprise en France peut être menacée par le ralentissement de l'économie chinoise et ses difficultés.
Il y a des effets positifs, des effets négatifs. Oui. Quand la Chine ralentit, effectivement, ça fait moins de demandes adressées aux entreprises françaises, mais ça représente que 5% de nos exportations. Donc finalement, c'est assez peu. En revanche, quand la Chine s'effondre, ça fait effondrer les prix du pétrole. Et ça, quand on est un pays consommateur de pétrole ou de matières premières, c'est plutôt bénéfique. Donc il y a des effets positifs, des effets négatifs. C'est plutôt négatif que positif, bien entendu, mais c'est pas non plus un cataclysme.
Bertrand Martineau, sur ce point?
Ah oui, tout à fait d'accord. Le problème, c'est que c'est pas la Chine toute seule qui risque de dévisser. C'est une partie de l'Asie. Puis je rappelle que des pays aussi importants que le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde également se portent quand même très très mal. Les émergents se portent très mal. La seule vraie locomotive de la croissance aujourd'hui au niveau international, c'est quand même les États-Unis. Donc l'avion n'a qu'un seul moteur, en quelque sorte.
Oui, il faudrait allumer le moteur européen. Et on a les moyens de le faire.
Bon, on n'en dira pas plus ce soir. Merci à tous les deux. Eric Ayer, directeur à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Je renvoie donc nos auditeurs à votre rapport 2014 sur l'économie française.
Ah, il y a le 2016 qui sort la semaine prochaine.
2016, la semaine prochaine. L'information est toute chaude et on vous la livre. Merci à vous, Bertrand Martineau, économiste, contributeur, vous, à l'Institut Montaigne, auteur de ce livre « Chômage inverser la courbe » qui est donc réédité la semaine prochaine, lui aussi, sous le titre « Pour en finir avec le chômage, ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas ». Merci également à Florence Ponce, à Cécile Périllard qui ont préparé, réalisé cette émission. Vous pouvez retrouver et télécharger sur notre site rfi.fr. Demain, Romain Ouzoui et ses invités se demandent s'il faut légiférer sur les parachutes dorés des grands patrons d'entreprise. Et lundi, on parlera politique agricole européenne. Le débat, c'est tous les soirs sur RFI à 19h40, heure de Paris. Bonsoir à tous. Un nouveau journal dans quelques secondes.